présence du Seigneur, il y a la guérison. Dans la présence du Seigneur, je trouve la paix. Dans la présence du Seigneur, mon cœur se réjouit. Dans la présence du Seigneur, je suis béni. Dans la présence du Seigneur, je garde la guérison. Dans la présence du Seigneur, je trouve la paix. Dans la présence du Seigneur, mon cœur se réjouit. Dans la présence du Seigneur, je suis béni.
Alléluia.
Dans la présence du Seigneur, je garde la guérison.
Et si tu es le ressuscité, tu es au milieu de nous.
Amen.
Tu es là,
Amen.
Présent avec nous, dans toute ta gloire et dans toute ta majesté.
Amen.
C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, te demander de nous donner un cœur attentif à ta voix, à ta parole. Car, Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et tu es au milieu de nous, Seigneur, quand nous sommes avec toi, avec ta parole, que tu nous as laissée pour nous montrer le chemin du salut et de la réconciliation avec Dieu et de la paix avec Dieu. Seigneur, ouvre notre esprit pour que nous puissions comprendre encore ta parole. Donne-nous ce calme intérieur, comptant sur toi pour la compréhension de ta parole. Merci pour l'assistance du Saint-Esprit, qui seul peut nous révéler ta grandeur, ta majesté, ta sainteté et ta gloire. Merci, Seigneur. Nous sommes devant toi maintenant. Tu sais ce dont nous avons besoin. Et tu nous parles selon nos besoins. Pas selon nos désirs, mais selon nos besoins cachés. Et à toi seul soit la gloire, Seigneur, pour tout ce que tu feras encore cet après-midi. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est réellement ressuscité. Il est au milieu de nous. Et au travers de sa parole, il veut encore nous enseigner, nous attirer à lui, car nous avons tant de choses à apprendre, n'est-ce pas vrai? Nous sommes ses disciples, il est le maître. Et plus nous avançons avec le Seigneur, plus nous réalisons notre ignorance. Plus nous réalisons que nous ne savons rien avec le Seigneur. Dans le monde, c'est le contraire. Dans le monde, plus on avance, plus on a l'impression qu'on sait beaucoup de choses. Mais avec le Seigneur, c'est l'inverse. Plus on le connaît, plus on réalise qu'on ne sait rien. Mais plus nous avons envie de le connaître et d'en savoir plus, pour mieux le refléter et mieux le glorifier dans nos vies. Le message de cet après-midi concerne un message sur la fin des temps et aura pour titre ce que chaque chrétien doit savoir sur la fin des temps. Et on va souligner le verbe « savoir » car il y a plusieurs choses indispensables que nous devons connaître concernant la fin des temps. Et la parole de Dieu seule peut nous donner avec exactitude ce qui arrivera. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que nous avons au milieu de nous, au travers de la Bible. Et c'est encore l'apôtre Paul, dans sa deuxième épître à Timothée. Nous avons lu ce matin au chapitre 4, mais nous lirons maintenant au chapitre 3. Et là, l'apôtre Paul dit encore des vérités importantes pour chacun d'entre nous. Nous allons lire les premiers versets. Sache, vous voyez le verbe savoir est là, sache. Qu'est-ce que tu dois savoir? Qu'est-ce que je dois savoir? Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Quelle tragédie ! Apprenant toujours, mais ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Amen. L'apôtre Paul commence en disant « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Alors, c'est pourquoi nous donnons comme titre « Ce que chaque chrétien doit savoir » sur la fin des temps. Bien sûr, on ne pourra pas tout dire, et c'est évident. Nous allons nous résumer dans ce passage, mais il y a assez de vérité pour nous réveiller, pour nous fortifier, pour nous corriger, pour nous enseigner et nous donner d'être prêts pour son glorieux retour. Amen. Et j'ai 8 points importants à vous donner, 8 vérités. Nous allons les voir brièvement ensemble afin de savoir dans quel temps nous vivons. Nous allons étudier premièrement le verbe savoir, sache. Première vérité à connaître, c'est d'abord la vérité concernant le verbe savoir. Et il est important de savoir ce que Paul voulait dire en utilisant le verbe savoir. Et dans le texte grec ici, l'apôtre Paul voulait dire « réalise les faits, sois conscient de ce qui arrive ». Une meilleure traduction serait « ne sois pas ignorant de certains faits alarmants qui arriveront certainement ». Ces choses arriveront dans le monde que nous le voulions ou pas. Nous ne pouvons rien changer. Autrement dit, ni la prière, ni les jeûnes ne changeront quelque chose à ce qui va arriver. Amen. Bien souvent, nous pensons que, vu la situation du monde, bon, certaines prières ou certaines jeûnes pourront bouleverser certaines situations, dans une certaine mesure, mais pas plus. Parce que vous ne pouvez pas aller à l'encontre des prophéties et de ce que Dieu a prévu pour la fin des temps. Amen. Il a prédit des choses qui arriveront, que nous jeûnions 40 jours ou je ne sais pas combien de temps, cela ne fera rien du tout. Ce sont des choses que Dieu a décidées et qu'il nous faut absolument être au courant. Réalise les faits, sois conscient de ce qui va arriver. Vous savez, un chrétien n'est ni un idéaliste, ni un pessimiste. Il est un réaliste. Amen. Il y a certains chrétiens qui sont soit pessimistes, soit idéalistes. Ceux qui sont idéalistes, ce sont ceux qui pensent que, on va le voir un peu encore à la fin, que le Seigneur, à la fin des temps, va faire de grandes choses, et même certains prédisent des grands réveils extraordinaires, de telle sorte que des nations même se convertiront, même les autorités seront chrétiennes. Enfin, on prédit un tel réveil mondial que on se demande où ils ont pris ça et si ces prophéties sont vraiment bibliques. Donc, ce sont des idéalistes. Nous allons voir qu'une telle conception n'est pas biblique. Et il y a ceux qui sont pessimistes, ceux qui voient tout en noir et qui pensent que, eh bien, le Seigneur n'a plus rien à faire, il ne peut pas encore agir. Et j'allais dire, il est presque à la retraite. Non, nous ne devons être ni idéalistes, ni pessimistes, mais réalistes. Nous devons voir les choses comme elles sont et ne pas pratiquer la politique de l'autruche. Mettre la tête dans le sable et dire que tout va bien ou tout ira bien. Tout ira bien, ce n'est pas vrai. Alors le verbe « savoir » nous met déjà sur les rails. Nous devons être conscients des faits. Ce sont des faits qui arriveront, que nous le voulions ou non. Que nous soyons d'accord ou pas, ces faits arriveront. Sache, sois certain, c'est une absolue certitude. Rien ne pourra changer. Alors dites-vous là. Même pas en priant, non, non. Il y a certaines choses que la prière ne pourra plus changer. C'est pourquoi il nous faut être réalistes. Amen. Alors c'est le premier point. Nous devons savoir ce que ce verbe « savoir » veut dire. Donc c'est quelque chose qui ne changera pas, où il nous faut être conscients et réalistes de ce qui va arriver. Deuxième vérité que nous devons savoir, il est dit « Sache que dans les derniers jours ». Maintenant, il est important de savoir ce que « dernier jour » veut dire dans le texte grec. C'est important, parce que ici, la vérité ne sort pas tellement. Dans le texte grec, le mot veut dire « dernier jour » veut dire « les derniers des derniers jours », dans les derniers des derniers jours. Donc, les jours juste avant le retour du Seigneur. Amen. Amen. Depuis la Pentecôte, nous sommes dans les derniers jours. L'apôtre Pierre lui-même a dit, quand le Saint-Esprit a été répandu à la Pentecôte, « Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Ça, c'est les derniers jours. Les derniers jours ont commencé à la Pentecôte. L'Église vit les temps des derniers jours. Mais ici, c'est différent. Ici, c'est les derniers des derniers jours. Ça concerne donc la fin des temps, juste avant le retour du Seigneur. Amen. Donc, nous sommes vraiment concernés. Parce que certains disent, oui, mais dans les derniers jours, ça a toujours été comme ça. Vous voyez, il y en a toujours qui essayent. Ah, mais c'est toujours... On l'entend, mais ça a toujours été comme ça. Ces difficultés, vous voyez, mais tout le monde était comme ça. Bon, mais c'était plus ou moins comme ça. Donc, il n'y a pas de changement. C'est une erreur. C'est dans les derniers des derniers jours, à la fin, juste avant le retour du Seigneur, certaines choses se passeront qui ne se sont jamais passées avant dans une telle intensité. Amen. Alors, nous sommes maintenant dans ce deuxième point, les derniers des derniers jours. Nous allons voir maintenant, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps. Il est bon de savoir aussi ce que le mot grec veut dire, ça c'est la troisième vérité que nous voyons maintenant. Sache, ensuite dernier jour, et maintenant difficile. Le mot difficile ici signifie traître, perfide. Ce qui manque à sa parole, déloyal, trahit celui qui lui faisait confiance. On pourrait traduire, il y aura des temps périlleux, dangereux, traîtres, très durs, violents. Ce mot « difficile » est traduit dans Matthieu 8, 28, pour décrire les deux démoniaques de Gadara. Vous vous souvenez, là, dans un évangile, on parle d'un démoniaque, mais dans un autre évangile, on parle des deux démoniaques de Gadara. Il est dit qu'ils étaient furieux et... Ils étaient furieux, violents et dangereux. Le texte dit, ils étaient si furieux. Le mot « furieux » ici veut dire « difficile » dans le passage que nous lisons là. Donc, il y a l'idée d'une menace et d'un danger. Il y a aussi la pensée de traîtrise, ce sera des temps de lâcheté, de déloyauté, voyez-vous. On vit vraiment ces temps-là. Amen. Et ce sont des temps si furieux, comme ces deux démoniaques. C'est comme, en somme, nous vivrons des temps, j'allais dire, démoniaques. D'une très grande intensité. Il ne faut donc pas que nous soyons surpris. Alors bien sûr, certains sont surpris quand on leur dit qu'ils attendent un grand réveil mondial et puis que les choses vont en s'empirant. Ceux-là, ils peuvent être surpris. Mais c'est parce qu'on se fait des idées, de fausses idées. Mais si nous nous attachons à sa parole, eh bien, nous serons rassurés et nous verrons que tout ce qui arrivera confirme exactement ce qui est écrit. Amen. Ce sont des temps violents, furieux, menaçants, diaboliques. Et dans ces temps-là, nous devons bien sûr veiller. Mais d'un autre côté, ce sont des temps qui nous rassurent. Nous savons que le Seigneur nous a avertis. Nous n'avons pas à être surpris
Comme Pierre disait aux premiers chrétiens, ne pensez pas que c'est une chose étrange qui vous arrive, la fournaise dans laquelle vous vous trouvez. Ces premiers chrétiens pensaient, se demandaient ce qui leur arrivait. Ils n'étaient pas préparés pour ce qui leur arrive. Ils pensaient que c'était des choses étranges. Mais nous n'avons pas à penser de même. Sache, le sais-tu, tu dois cesser de planer. Tu dois cesser de te faire des idées qui ne sont pas bibliques ou d'accepter des pensées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Nous devons être des réalistes. Amen. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Il y aura des temps difficiles. Et il ne faut pas être un prophète pour dire que ces choses se passent au milieu de nous. Amen. Et savoir que ces choses iront en empirant, eh bien, cela nous montre combien nous devons être près du Seigneur. Que nous ne pouvons pas nous passer du Seigneur, sinon nous serons emportés à tout vent de doctrine, par le vent de la méchanceté, de l'erreur, de la séduction, de l'impureté qui balaye ce monde aujourd'hui. Nous devons savoir. Si tu ne sais pas certaines choses, tu seras pris par surprise. Et ça risque de te coûter cher. Il y aura des temps difficiles, diaboliques, furieux, traîtres, la traîtrise aussi, où on trompe jusque son ami, on abandonne celui qui a été son ami jusqu'à présent. Il y a une pensée de traîtrise, d'abandon, de menace, de violence. Nous sommes en plein dedans. Alors, il nous faut savoir ces choses pour avoir la bonne attitude. Et maintenant, il y a un autre mot important. Il y aura des temps difficiles. On a vu l'explication du mot difficile. Maintenant, voyez, quatrièmement. Le quatrièmement, c'est l'explication du mot temps dans ce passage. Le mot temps ici, en grec kéros, se rapporte à des périodes de temps telles que décennies, siècle ou millénium. Mais ici, l'idée est de décennie. On pourrait donc traduire chaque nouvelle décade, décennie, apportera son lot de nouveaux dangers, nouvelles souffrances, nouvelles violences, nouvelles philosophies, nouvelles doctrines, nouvelles expériences. Voilà ce qui nous attend, des décades, des décennies de nouveautés, de nouvelles choses à la mode, pas seulement dans le monde, mais aussi dans l'Église. Et c'est pourquoi, vous le remarquez, avez-vous remarqué, si vous suivez bien l'histoire de l'Église dans ces dernières années, est-ce qu'il n'y a pas eu des décennies où chacun apportait une vérité à la mode, des expériences à la mode, des doctrines à la mode, ça dure à peu près 10 ans, et puis après ça passe et on aborde une autre décennie. Ce sont des décennies où nous voyons de nouvelles choses, de nouvelles choses, de nouvelles choses. Et nous sommes exactement là-dedans. Et quand on veut nous dire que ces décennies-là, ces nouvelles choses que nous vivons aujourd'hui, sont tout à fait nouvelles, mes amis, ces choses que certains veulent dire que sont des choses nouvelles, ne sont certainement pas nouvelles. On veut nous faire accroire que les nouvelles expériences, avec toutes ces manifestations de rire hystérique, des gens qui se roulent par terre, qui rugissent comme des lions, qui aboient comme des chiens. On veut nous faire croire maintenant que cela vient du Saint-Esprit. Quel mensonge! Quelle illusion! Savez-vous que ces mêmes manifestations dont je viens vous parler, les gourous les vivent depuis déjà des années. Certains adeptes de gourous qui les ont abandonnés, se sont convertis, ont dit, mais nous dans nos réunions, on vivait ces manifestations hystériques. Ces rires hystériques, ces gens qui se roulent par terre, qui crient et qui font toutes sortes de bruits d'animaux affreux. On veut nous faire croire que ça vient du ciel, alors que les gourous expérimentent ces mêmes choses. Vous ne croyez pas qu'il y a des choses que nous devons savoir et qu'il est temps qu'on n'accepte pas n'importe quoi, de n'importe qui, en venant de... Voilà, ce sont des nouvelles révélations. Quelles nouvelles révélations? Si ce que tu dis n'est pas conforme à la parole, si ces nouvelles révélations et ces nouvelles expériences n'ont pas été enseignées et pratiquées par le Seigneur et par les apôtres, nous devons les rejeter.
Amen.
Amen. Parce qu'ils sont le modèle est là. Mais on veut nous faire croire que, au début, ce modèle, c'était un modèle de débutant. Il fallait améliorer ce modèle. Ah bon? L'apôtre Paul dit que si quelqu'un prêche un autre évangile que ce qu'il a reçu, qu'il soit anathème. Il ne parle pas, lui, d'amélioration ou de nouvelles révélations ou d'addition de cet évangile qu'il a reçu. Il dit même qu'il soit anathème, celui qui veut ajouter quelque chose à ce nouvel évangile, à cet évangile. C'est un nouvel évangile qui doit être rejeté. Nous devons le savoir. Le savez-vous? Des temps difficiles, il y aura des décades de nouvelles choses. Et nous sommes en plein dedans. Amen. Nous sommes en plein dedans. Et si nous ne le savons pas, malheureusement, des centaines et des multitudes sont dans ces choses-là et pensent vivre un réveil extraordinaire, alors qu'ils vivent l'apostasie. Ce que certains disent, appellent réveil aujourd'hui, la parole de Dieu l'appelle apostasie. Parce que ce sont des choses qu'on ne voit pas dans les Écritures. Amen. Bien sûr, tout au long de l'histoire de l'Église, il y aura des manifestations de l'Esprit où des âmes seront sauvées, des corps seront guéris, n'est-ce pas? Et cela partout où l'Évangile est prêché, dans le monde entier. Le Seigneur confirme sa parole, il y a des âmes sauvées, des corps sont guéris. Nous, quand nous allons en Afrique, nous voyons vraiment la puissance de Dieu à l'œuvre. Les âmes sont sauvées par centaines. Le Seigneur sauve, guérit, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Mais ça, c'est la vie normale de l'Église. Il ne faut pas parler de cela en disant « ce sont des grands réveils, c'est la vie normale, ça !» C'est ce qui se passait dans la première Église, n'est-ce pas vrai? Mais entre ça et nous prédire des réveils mondiaux qui changeront même le cours des nations, c'est un mensonge. Parce que la Bible ne parle pas de grand réveil à la fin, mais d'une grande apostasie. Jésus lui-même a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la quoi? La foi sur la terre. C'est loin d'être un réveil. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est pas moi qui le dis cela. C'est Jésus. Donc il savait très bien ce qu'il disait. Qui est la vérité? Alors voyez-vous, mais certains aiment ça. Ils aiment entendre des paroles qui gonflent l'orgueil, n'est-ce pas? Qui nous flattent. On veut qu'il se passe des grandes choses. Mais mes amis, si nous sommes là uniquement pour suivre ou expérimenter de grandes choses, nous risquons de faire de tristes expériences. Ce qu'il nous faut, c'est suivre la parole de Dieu et obéir à sa parole. Et cela nous suffira. Et ne pas nous éloigner des Écritures et du fondement de la parole que les apôtres ont prêché. Amen. Alors il y aura des temps difficiles, des décades. Et vous savez, quand cette mode sera passée que nous voyons aujourd'hui, une autre mode va venir encore. Une autre mode. Et on va vous dire maintenant, voilà ce que Dieu fait. Voilà maintenant de nouvelles manifestations de l'Esprit qu'on n'a jamais vu dans la Bible, que les apôtres n'ont jamais pratiqué ni enseigné. C'est donc un autre évangile, ce qu'on appelle nouvelle révélation, ce que les hommes appellent nouvelle révélation, Dieu l'appelle un autre évangile. Nous devons le savoir, sinon nous serons portés à tout vent de doctrine et nous serons dans la plus grande des confusions Et d'ailleurs, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans une grande confusion à cause de tout ce qui se passe. Mais ils n'ont pas à être dans la confusion. Pourquoi sont-ils dans la confusion? Parce qu'ils n'ont pas fondé leur foi sur la seule parole de Dieu. Veillons à ne pas avoir un christianisme du nouvel âge, mes amis. Nous commençons à vivre un christianisme du nouvel âge. Et le nouvel âge, vous savez ce que c'est? Ce sont les expériences. À tout prix. Pourvu que ça nous fasse du bien. Quelqu'un dit, ah mais ça m'a fait... vient forcément de Dieu. Le diable aussi sait faire du bien à ceux qui le suivent. Amen. Un jour, dans une cassette vidéo, je voyais sur le nouvel âge, justement, d'un seul coup, on voit un jeune homme qui rendait témoignage. C'était un jeune homme, un adepte d'un gourou. Et puis, il rendait témoignage. Et on lui a dit, qu'est-ce qui t'a apporté ce gourou? Qu'est-ce qui t'a apporté? Il avait le visage comme un peu illuminé. Il m'a dit, ah, il m'a apporté l'amour. J'ai fait l'expérience de l'amour. Le gourou. La paix, l'amour. Mais vous vous rendez compte? Nous, on pourrait penser que les gourous, le diable, tout ça, ils n'apportent que des mauvaises choses. Détrompons-nous. Il n'y a pas que des guérisons que le Seigneur fait. Le diable aussi. Il fait des prodiges mensongers. Amen. C'est pourquoi nous devons être conscients de ces choses. Ce n'est pas parce que quelque chose t'a fait du bien que ça vient de Dieu. L'expérience que tu fais, est-elle biblique ou non? Si elle n'est pas biblique, même si elle t'a fait du bien, tu dois la rejeter. Amen? Tu le sais cela? Est-ce que tu le sais? Oh, mais ça m'a fait du bien. Oh, ça n'a aucune preuve. Mais dans le nouvel âge, les gens expérimentent de bonnes choses. Mais est-ce que ça vient de Dieu? Certainement pas. Donc là encore, combien nous devons être au courant et savoir que si nous voulons faire des expériences, il faut qu'elles soient bibliques. Si elles ne sont pas bibliques, même si elles ont fait du bien. Mais oh, mais quelqu'un dit, mais moi j'ai été guéri. Vous ne pouvez pas me contredire, j'ai été guéri, il n'y a pas d'histoire. Ah bon? La guérison ne prouve rien. La guérison ne prouve rien. Car l'ennemi peut nous tromper comme cela, n'est-ce pas vrai? Ainsi, nous devons savoir ces choses. Dans les derniers temps, il y aura des décennies, des décades, de nouvelles modes. Et on veut nous faire croire que c'est nouveau, alors que déjà même au début de l'Église chrétienne, je lisais un livre sur l'histoire de l'Église. Et puis à un moment donné, il y avait des montanistes, enfin, ils semblaient avoir bien commencé. Au début de l'histoire chrétienne, vers le premier siècle, vers la fin du premier siècle, comme ça, après la mort des apôtres, il semblait qu'il y avait quelque chose. Mais vous savez ce qui s'est passé peu de temps après? Au milieu d'eux, ils commencent à expérimenter des manifestations de cris d'animaux et tout ça. Déjà à ce moment-là, ça se passait. Et on veut nous faire croire que c'est nouveau. Quel mensonge! Combien nous devons savoir ces choses? Amen. Alors voyons maintenant un cinquième mot qui est important. Et dans 2 Timothée chapitre 3, il est dit, il y aura des temps difficiles car les hommes seront... Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? La première manifestation des hommes, c'est celle-ci. Ils seront égoïstes. Maintenant, voyons un cinquième mot qui reflète pleinement notre société actuelle. Car les hommes seront quoi? Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Égoïstes. Alors voilà un mot qui est à la mode maintenant. Et vous savez ce que le mot égoïste dans le texte grec veut dire? C'est celui qui est amoureux de lui-même. C'est s'aimer soi-même d'une manière exagérée. C'est être profondément égocentrique. C'est se préoccuper de soi d'une manière désordonnée et excessive. Voilà une autre manifestation que nous allons voir de plus en plus dans les temps à venir. Les hommes seront égoïstes, donc qui vivent uniquement pour eux-mêmes, amoureux d'eux-mêmes. Le self-respect, self-estime, self-love, c'est tout cela commence à être à la mode. Il y a la philosophie qui nous prêche là-dessus. Et vous savez ce qui se passe, mes amis? Non seulement le monde enseigne ces choses, mais c'est entré aussi dans l'Église. Il y a même dans l'Église des livres d'un certain auteur américain, Schuller, Robert Schuller, qui dit que le manque d'estime de soi est un péché. Le péché, c'est le manque d'estime de soi. Vous vous rendez compte? Alors il exhorte les gens à s'aimer eux-mêmes. Plus ils s'aimeront eux-mêmes, plus soi-disant, ils seront épanouis. Et vous savez, celui-là même dit encore, c'est un péché de dire aux gens qu'ils sont pécheurs. Voilà où nous en sommes maintenant. Et ces philosophies ne sont pas seulement dans le monde, mais dans l'Église aussi, où l'on prêche le self-estime, l'estime de soi. Et que si on n'a pas cette estime de soi, eh bien, si on ne s'aime pas comme il le faudrait, si on ne fait pas ces choses-là, eh bien, jamais on pourra vraiment s'épanouir. Mais où avons-nous sorti cela? Il parle même de ces choses comme une deuxième réformation. Ça dépasse même la réformation de Martin Luther et de Jean Calvin. Mais le moi, c'est justement cela le péché. Et maintenant, on nous exhorte à aimer notre moi. Alors qu'on doit renoncer à notre moi. Maintenant, des hommes, des pasteurs, entre guillemets, des théologiens, nous exhortent à nous aimer nous-mêmes. Pour pouvoir, soi-disant, être productif et faire quelque chose pour Dieu. Mes amis, cela est au milieu de nous, nous devons le savoir. Plusieurs ont déjà lu de ces livres et sont empoisonnés par une telle doctrine. Mes amis, il nous faut mettre ça de côté. C'est notre problème, le péché, c'est quoi, mes amis? Ce n'est pas le manque d'estime de soi. Le péché, c'est faire sa volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Et ces gens-là veulent nous pousser à faire d'abord notre volonté. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ta force et ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ils nous disent que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. Mais Jésus, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme pour dire, tu t'aimes déjà assez. Tu as déjà trop d'amour pour toi. Alors si tu aimais déjà ton prochain autant que tu t'aimes toi-même, tous les problèmes seraient résolus. Amen. Voilà, c'est ce que Jésus a voulu dire. Mais voilà comment on tord les Écritures. Et soi-disant des psychologues chrétiens, des théologiens, et il y a des livres comme cela qui coûtent des fortunes, et des chrétiens achètent cela et sont empoisonnés avec cela. Ton plus grand obstacle dans ta vie chrétienne, c'est ton moi. Si tu nourris ton moi, tu te détruiras. Car Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera, la sauvera. Amen. Qu'est-ce que le péché? Ce n'est pas manquer d'estime pour soi. Le péché, c'est faire sa volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Le péché, c'est mettre mon moi au centre, sur le trône de ma vie, de mon cœur. C'est cela le péché. Et quand je me convertis à Jésus, je dois mettre mon moi de côté. Je dois dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia! Les hommes seront égoïstes. Et un égoïste, mes amis, écoutez-moi bien, vous ne pouvez jamais satisfaire un égoïste. Plus vous donnez à quelqu'un qui est égoïste, plus il sera insatisfait. Vous ne pouvez jamais satisfaire un égoïste. Et quand un égoïste reçoit quelque chose, vous savez ce qu'il vous dit ? Encore. Il ne dit pas merci, il ne sait pas dire merci. Encore. Pourquoi ? Vous lui redonnez encore. Encore. Pourquoi ? Il n'est pas satisfait. Mais quand le Seigneur est dans notre cœur et qu'on vous donne la moindre petite chose, qu'est-ce que vous dites ? Merci. Mais il y a encore des chrétiens qui disent encore. Ça, c'est les restes du monde. Et il faudra purifier ça. Amen. Il faudra bien gratter pour que ça parte. Et qu'on ne dise plus encore, encore. Mais commencez à dire merci. Merci. Parce que lorsque le moi est mis de côté, alors Jésus prend toute la place. Et lui nous satisfait pleinement. Nous n'attendons plus rien de personne. Et quand on nous donne quelque chose, c'est un surplus, c'est un cadeau. Merci. On ne vit pas de cela, on ne dépend pas de cela. Tandis que l'égoïste, lui, il est là comme une sangsue. C'est une véritable sangsue. Plus vous en donnez, plus il en veut. Ce sont des gens qui vous épuiseront. Ils n'en ont jamais assez. Jamais assez. Mais ils ont lu des livres, ils ont lu des livres. Qu'il faut s'aimer soi-même, et quand ils seront bien, quand ils se seront bien, aimer eux-mêmes. Autrement dit, quand ils se seront bien, adorer eux-mêmes. Après, soi-disant, ils vont aimer les autres. Mais comme ils sont un puits sans fond eux-mêmes, ils n'en ont jamais assez pour eux-mêmes, si bien que jamais ils arrivent à se donner aux autres et à aimer leur prochain. Et vous voyez que ce sont des gens qui tournent autour d'eux-mêmes toute leur vie. Mais gloire à Dieu, Jésus nous a libérés de cet esclavage. Alléluia! Lorsque nous venons au Seigneur, nous lui donnons nos péchés et nous lui disons, maintenant Seigneur, je ne veux plus faire ma volonté, mais ta volonté. On ne lui donne pas seulement nos péchés, mais on donne la racine même du péché. C'est la rébellion. Le péché, c'est quoi? C'est la rébellion. C'est faire ce qu'on veut au lieu de faire ce que Dieu veut. Autrement dit, quand tu te convertis, tu ne dois pas seulement dire « Pardon, Seigneur, pour mes péchés. Purifie mon cœur. Mais aussi, Seigneur, j'abandonne ma rébellion. J'abandonne mon moi. À partir de ce jour, ce n'est plus moi qui dirige ma vie, c'est toi. Prends les rênes de ma vie et dirige-les selon ta volonté. » Alléluia! Alors là, tu expérimenteras le véritable christianisme. Amen. Car le véritable christianisme, c'est Christ. Paul disait, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Alléluia. Ils seront égoïstes, jamais satisfaits, jamais satisfaits, jamais satisfaits. N'est-ce pas dans les nations les plus riches qu'il y a le plus de suicides ? N'est-ce pas cela ? Et pourtant, ils ont tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut, sauf l'essentiel. Amen. Cinquièmement, on en arrive à combien ? Six. Sixièmement, on va prendre les trois premières caractéristiques. Les hommes seront égoïstes. Ensuite, qu'est-ce que vous avez ? Amis de l'argent. Amis de l'argent. Alors ici, dans le texte grec, voici ce que ça veut dire. C'est un amour anormal et excessif de l'argent. Il est bon de se rappeler qu'un homme peut perdre plus facilement son âme dans la prospérité que dans l'adversité. L'homme le plus pauvre dans ce monde est celui qui ne possède que de l'argent. L'homme le plus pauvre dans ce monde est celui qui ne possède que de l'argent. Vous voyez, quand le cœur est vide, quand le Seigneur n'est pas là, on essaye de satisfaire ce cœur par des choses, par des objets, Mais jamais notre cœur ne sera satisfait par de l'argent, par quelque chose. C'est une personne qui seule pourra satisfaire ton cœur. Alléluia! Je suis le pain de vie, le pain qui nourrit, le pain qui fortifie, le pain qui guérit. Alléluia! Ami de l'argent, matérialiste, voilà la société de la fin des temps. Et nous y sommes en plein, n'est-ce pas vrai? Et ça le sera encore plus. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Loin de la foi. De la foi. Donc des chrétiens ont abandonné le Seigneur à cause de cet amour excessif de l'argent. Écoutez-moi bien, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Il nous faut de l'argent pour vivre. Comme je vous le disais au début, il nous faut être réaliste. Il nous faut être réaliste. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Posséder de l'argent, c'est une chose. Être possédé par l'argent, ça c'est tout autre chose. Alors là aussi, nous devons veiller, mes amis. Nous devons savoir que si nous avons mis notre cœur dans l'argent, pour nous satisfaire, nous serons déçus. La réponse biblique est Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà l'équilibre, voilà l'ordre des priorités. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Peut-être que tu as des problèmes financiers parce que tu n'as pas les priorités à leur place. Parce que tu vis uniquement pour l'argent. Mets le Seigneur en premier. Mets-le vraiment en premier. Cherche à faire sa volonté. Vis pour lui. Il n'abandonne jamais les siens. Amen. Il n'abandonne jamais les siens. Mais pourquoi veux-tu que le Seigneur te donne de l'argent quand c'est pour vivre pour toi et pour perdre ton âme? Veux-tu qu'il t'encourage encore dans cette descente pour que tu aies encore plus de tourments? Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Trouve dans le Seigneur et sa parole ta pleine satisfaction, ta joie. Et tu auras beaucoup moins de besoins aussi. Amen. Tu en auras beaucoup moins de besoins. Même avec moins d'argent, tu feras beaucoup plus. Parce que tu ne dépenseras pas ton argent inutilement. Tu le dépenseras comme Dieu le veut. Parce que tu as les bonnes priorités. Avec peu, tu peux faire beaucoup. Tandis que certains ont beaucoup et ils ne font rien du tout. N'est-ce pas vrai? 5 pains et 2 poissons, le Seigneur peut multiplier ça. Amen. Et les autres, ils ont tout, mais ils ne font rien du tout. Fanfaron, on en arrive à combien? Septièmement, je vais bientôt terminer. Septièmement, il est dit quoi après? Ami de l'argent, fanfaron. C'est intéressant de voir ce que ce mot veut dire, grec alazon. Mais ma prononciation n'est pas toujours bonne. Moi, je n'ai pas fait du grec, hein, je prononce comme ça. S'il y en a un qui connaît bien le grec, il peut bien m'aider après en disant « Tu aurais dû prononcer ça un peu différemment. Hein, » ça m'a un peu écorché les oreilles. D'accord, je te demande pardon. Alors. Grec, moi, je ne répète plus, alors, pour ne pas te... signifie se vanter jusqu'à même mentir afin de se montrer soi-même. Voilà le fanfaron. Il fait croire qu'il possède certaines qualités qu'il n'a pas ou presque pas. Ce sont ceux qui font croire que sans eux, rien ne peut se faire. Ceux qui font beaucoup de discours, mais pas beaucoup d'actes. Ils en savent toujours plus que les autres. Voilà le fanfaron. Il est toujours en train de trompeter. Ah, tu sais pas. Mais alors, il fait croire qu'il est quelqu'un qu'il n'est pas. Pourquoi? Parce qu'il est insatisfait intérieurement. Nous n'avons pas à paraître quelque chose, mes amis, quand le Seigneur est en nous, on est content. Et on n'a pas à paraître quelqu'un d'autre. Quand le Seigneur est dans notre cœur, nous restons nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre. Comme certains essayent de ressembler à tel artiste, ou à tel homme politique, ou à tel philosophe, ou autre. On cherche tous à ressembler à quelqu'un. Mais tu n'as pas à courir, à faire en sorte de ressembler. Non! Avec le Seigneur, tu es toi-même. Il remplit ton cœur. Tu es satisfait. Tu as la paix avec Dieu. Son pardon est en toi. Tu vis avec lui. Tu n'as besoin de personne d'autre. Il te satisfait. C'est lui ton modèle. Et c'est le plus grand des modèles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le fanfaron, il fait croire des choses qu'il n'a pas, des qualités qu'il n'a pas. Voilà une caractéristique des temps de la fin. La fanfaronnade. Malheureusement, certains chrétiens sont aussi comme ça. Dès qu'ils ouvrent la bouche, ils ne peuvent pas attendre de parler d'eux-mêmes. Silence! Tu vas entendre parler de moi. C'est moi qui te parle! Et il a tellement fait de discours sur lui-même, il ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux maintenant. Il en a tellement fait sur lui. À l'un, il a dit blanc, à l'autre, il a dit noir. Il ne sait plus où il en est, il est perdu. Si bien qu'à la fin, pour pas qu'on le reconnaisse, il met un masque. Comme ça, il peut dire n'importe quoi, on ne le reconnaît plus. Mais il n'est plus lui-même, complètement perdu. Fanfaron, nous n'avons pas besoin d'être seul avec le Seigneur. Amen. On est ce qu'on est, mes amis. Simple. Paul, Pierre, Jean, on les a reconnus, Pierre et Jean, pour avoir été avec le Seigneur. Tout simple. C'est Jésus qu'on veut voir en nous et personne d'autre. Amen. C'est pas toi qu'on doit voir. N'essaye pas de te montrer. N'essaye pas toujours de faire valoir ce que tu n'es pas. Révèle Jésus. Apporte Jésus. Et tu ne te tromperas jamais. Huitièmement. Huitième caractéristique, et je termine maintenant. C'est la parole de Dieu. Être attaché à la parole de Dieu. Disons, ce n'est plus un défaut, c'est maintenant la qualité. La qualité, pour corriger tout cela, c'est être attaché à la parole de Dieu. Être loyal à la parole de Dieu. Et je termine en prenant seulement trois verbes dans 2 Timothée 4. Trois verbes, rapidement. Paul dit, prêche la parole. Prêche. Ensuite, il dit, insiste. Et plus loin, il lui dit, sois sobre. Il y a là, dans ces trois mots, trois vérités importantes pour nous maintenant, pour savoir comment nous devons nous comporter en face de tout cela. Prêche. Le verbe prêcher dans le texte grec veut dire, Paul dit, c'est un verbe répétitif. Ça veut dire, prêche, 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 prêche la parole. Parce que les hommes, ils auront la démangeaison d'entendre autre chose. Mais toi, sois un bon serviteur de Dieu. Prêche, 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 parle de la parole. Seule la parole est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Amen. C'est la première des choses. Prêche la parole. Prêche la parole. Elle seule est la lumière et la vérité. Sans cela, nous risquons de perdre nos âmes. Amen. Et c'est répétitif, insistant. Prêche, 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 quelle que soit la situation. Deuxièmement, il est dit insiste. Le verbe insister veut dire, c'est un terme militaire qui veut dire reste à ton poste. C'est l'exemple d'un soldat qui doit rester à son poste pour veiller, pour garder. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prêcher, prêcher la parole et rester à notre poste, fidèles à ce que Dieu nous a confié. Amen. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. L'évangile est un évangile glorieux. Nous n'avons pas besoin de nouvelles philosophies, de nouvelles théologies, de nouvelles expériences, de nouvelles psychologies. La parole de Dieu, nous avons tout. pleinement en Jésus-Christ. Reste à ton poste. Ne quitte pas ton poste. Un soldat qui quitte son poste, c'est quoi? Déserteur. Attention de ne pas devenir un déserteur spirituel. Ne sois pas un déserteur. Reste à ton poste. L'ennemi arrive. L'ennemi rôde. Reste à ton poste. Que l'on puisse savoir qu'avec toi, c'est la parole de Dieu. Tu es l'homme, la femme qui tient le flambeau de l'évangile jusqu'à sa mort. Alléluia. Voilà les hommes et les femmes que Dieu cherche aujourd'hui dans ces temps de la fin. Et troisième verbe, il est dit, ils se tourneront vers les femmes. Mets-toi, 4:5, 2 Timothée 4:5, mets-toi, sois sobre. Et le verbe, le mot sobre ici veut dire ne sois pas intoxiqué comme les autres. Il est parlé d'intoxication. Donc ne sois pas intoxiqué par ces nouvelles doctrines, ces nouvelles expériences, ces nouvelles philosophies, ces nouvelles psychologies. Sois sobre. Ne sois pas intoxiqué. Sois maître de toi-même. Car les gens qui font cela, mes amis, sont drogués et intoxiqués. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'ils font de telles expériences, la semaine d'après, il leur en faut une autre. Parce que ça part, ça vient ici, ça vient ici, ça sort par là, ou ça rentre ici, et puis je ne sais pas. Ils ne tiennent pas, ils ne peuvent pas garder, il faut qu'une semaine après, ils aient de nouveau leur dose. Est-ce que c'est comme ça avec le Seigneur? Quand on a le Seigneur, quand l'Esprit de Dieu est en nous, Dieu nous donne les moyens de nous renouveler nous-mêmes, alléluia! Le Seigneur nous suffit, son Esprit nous suffit, et sa parole nous suffit. Mais ne sois pas intoxiqué comme les autres, qui sont constamment à la recherche de nouvelles drogues, de nouvelles compensations, parce qu'il y a un vide en eux, parce que leur vie n'est pas entièrement consacrée. Ils ont peut-être donné leur péché au Seigneur, mais pas leur volonté. Ils n'ont pas dit un jour, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je te remets les rênes de ma vie à partir de ce jour. Sois-en le maître et le Seigneur. Et si vous le faites de tout votre cœur, c'est alors que le miracle de la nouvelle naissance, d'une nouvelle vie ou d'une reconsécration qui s'opérera dans votre vie. Alléluia! Et je vous assure, vous n'aurez pas besoin de nouvelles drogues. Si vous vous donnez entièrement à lui, il saura vous satisfaire et vous n'aurez besoin de rien d'autre. Amen! Mais tout cela dépend de vous, du don que vous faites de vous-même. Si vous vous donnez entièrement, vous recevrez entièrement de sa part les grâces dont vous avez besoin. Amen. Alléluia. Amen. Ce que chaque chrétien doit savoir sur la fin des temps, voilà que le Seigneur nous donne de réaliser ses fêtes, de les mettre en pratique et d'être prêt pour son prochain retour. Et de mettre notre vie en règle si elle n'est pas encore en règle. De ne pas attendre le dernier jour, car il viendra par surprise. Il viendra au moment où tu ne t'y attends pas. C'est à ce moment-là qu'il viendra. Donc le meilleur jour pour se repentir et mettre sa vie en règle avec Dieu, c'est aujourd'hui. Car la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour favorable. Puissions-nous entendre son appel. C'est l'appel du roi des rois. C'est l'appel du maître. Un jour, cet appel se taira et ce sera trop tard. Pendant que la porte de la grâce est ouverte, entre, sois sauvé. Et toi, chrétien, donne-toi entièrement au Seigneur. Ne vis plus pour toi-même, mais vis pour celui qui est mort et ressuscité pour toi. Offre-lui les rênes de ta volonté et qu'à partir de ce jour, tu puisses dire, maintenant c'est fini, je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur et mon Seigneur. Je veux lui plaire, faire sa volonté, et je lui resterai fidèle jusqu'au bout. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia.
Merci Jésus.
Seigneur Jésus, nous voulons te remercier encore pour ces moments où tu nous instruis, tu nous appelles, tu nous révèles ces temps de la fin. Et tu nous dis que ce seront des temps périlleux, des temps diaboliques, menaçants. Seigneur,
Il n'y a qu'un endroit pour être protégé. C'est auprès de toi. C'est à l'abri du rocher qui est Christ. Là, la tempête n'a plus d'effet. Là, le vent n'a plus d'effet. Là, l'ouragan n'a plus d'effet.
C'est vrai.
Là, le typhon n'a plus d'effet.
Oui.
Jésus est le solide rocher de notre foi.
Amen, amen. Alléluia.
Nous voulons, Seigneur, nous attacher à toi plus que jamais.
Merci, Seigneur.
Sinon, nous serons portés par toutes sortes de choses dans ces temps de la fin. Puissions-nous, Seigneur, répondre à ton appel et dire oui ce soir. Merci,
merci
Seigneur.
Alléluia.
Le Seigneur appelle maintenant
Alléluia.
Quelques personnes et nous allons faire un appel Alléluia. Tout spécialement pour